mora ya bepe nenye te trae kangaka.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Je vous présente le groupe d'Évreux. Alors Ronan aux manettes.
Bonsoir.
Edith.
Bonsoir.
C'est le groupe d'Amnesty International d'Évreux.
Oui, mais Françoise, elle fait deviner comme ça, c'est plus rigolo. Après, on allait voir si nos fidèles nous connaissaient.
Sabine.
Bonsoir.
Et moi, Françoise.
Françoise.
Voilà.
Alors, de quoi allons-nous parler, Françoise, ce soir?
Eh bien, voilà.
Tu sais plein de choses.
Après la chute d'Alep, le conflit en Syrie entre dans sa 7e année. Il rejoint la longue liste des conflits oubliés, comme celui qui frappe le Yémen depuis 2 ans et dont les populations civiles paient le prix dévastateur. Donc, mobilisons-nous contre l'oubli, indignons-nous face à l'indifférence tragique des politiques, par solidarité à l'égard des victimes, dont beaucoup continuent à inspirer le monde par leur courage et leur résilience. Avec Amnesty, c'est la vision d'un printemps des droits humains que nous continuons à porter dans notre engagement quotidien et l'espoir pour tous ceux qui le défendent.
Oui.
Je passe la parole à Edith.
Ça va. Voilà, tu peux peut-être aussi parler un petit peu de nos thèmes. Parce que ce que tu dis là, c'est sûr qu'on parle de choses tristes. On parle aussi d'espoir parce que c'est le printemps. On va essayer de vous donner un peu tout ça pour cette émission, Françoise. Alors, on va pouvoir vous parler.
Oui, on va vous parler de Trump et des problèmes des réfugiés.
Je suis pas sûre que ça soit l'espoir. Je ne sais pas pourquoi.
Moi, j'en veux pas.
On va vous donner aussi des bonnes nouvelles quand même.
Ah, ça va.
Voilà quelque chose de positif.
Ensuite, Sabine et Edith vous parleront des réfugiés en Hongrie et puis de l'accueil des réfugiés en France aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vous parlerai de la Gambie. Voilà, Vietnam. Ronan vous donnera
des sous.
Non, il vous donnera, qu'est-ce que je veux dire, des informations sur la peine de mort.
Ouais, parce que d'habitude, je fais les bonnes nouvelles. Alors
et des bonnes nouvelles.
Ah oui, mais Ronan, justement, on est fatigués de dire des choses trop tristes. Alors
des
on en passe
nouvelles.
Un peu à Ronan quand même. Peine de mort.
On en veut.
Et puis, il vous donnera des bonnes nouvelles sur les réfugiés.
Voilà.
Aussi, voilà, Edith vous parlera de la Russie. Et puis, après, nous vous donnerons des informations générales.
Voilà, on va essayer un peu d'aller faire l'état du monde. Et c'est vrai qu'il faut... Il faut l'optimisme du printemps tout de suite, un peu, je crois. Hein,
ouais, sinon, c'est la déprime totale.
Voilà, donc on compte sur vous, on compte sur vos actions, sur vos soutiens. Et moi, je vais commencer par... je crois que la dernière fois que j'ai fait la radio, c'était pareil. Je vous ai parlé de Trump, des États-Unis.
Tout à fait, c'était par rapport au premier décret.
Ouais, je vais vous parler du deuxième.
Alors, il est pas mieux ?
Ouais, non, on pourrait croire qu'il s'est amélioré, mais là... Donald Trump vient de signer un nouveau décret pour interdire aux personnes musulmanes, aux réfugiés, d'entrer sur le territoire américain. Alors, vous rappelez que ce décret avait été un petit peu bloqué par les textes légaux aux États-Unis. Et là, ce décret est censé être plus légal que le précédent qui avait été suspendu par la justice. Mais pour Amnesty, il reste illégal et inhumain. Alors, ce qu'on retrouve dans son décret, forcément, c'est vraiment... un fonds anti-musulman qui est évident pour toute personne qui connaît la campagne que Trump a menée pour se faire élire. Cette campagne pour semer la peur au sujet des musulmans. Donc on retrouve la même chose dans ce décret car les ressortissants de 6 pays majoritairement musulmans, l'Iran, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et la Libye, sont interdits d'entrer dans le territoire américain pendant 90 jours. Alors l'Irak, Bon, les ressortissants irakiens ne font pas l'objet de cette interdiction, mais ils restent soumis à des vérifications minutieuses, sans qu'il soit possible de savoir ce que cela signifie vraiment. Et le décret maintient la suspension de la réinstallation des réfugiés vers les États-Unis pendant 120 jours. Alors, la réinstallation, je vous rappelle, c'est quand les réfugiés ont été dans des camps, ils ont été identifiés comme vulnérables et on leur demande d'aller à des pays de les accueillir. Et en 2015, 60% des 107 000 réfugiés qui avaient pu bénéficier d'une place de réinstallation avaient été accueillis aux États-Unis. Donc, on peut imaginer un peu la situation actuellement de ces gens dans les camps qui savent qu'ils vont pouvoir être accueillis et qui avaient demandé les États-Unis et qui savent que tout est bloqué pour eux pour 120 jours. Donc on rappelle aussi quand même les gens vulnérables, les réfugiés, ils ont peut-être fui la destruction d'Alep, les bombes, la famine au Yémen ou pire. Et que ces personnes, s'ils fuient, c'est pour échapper à des dangers qui menacent leur sécurité et elles sont en droit d'être protégées. Donc, que dit Amnesty ? Que ce décret bafoue les valeurs que les États-Unis affirment défendre depuis longtemps et menace d'anéantir les espoirs de milliers de réfugiés qui devaient se réinstaller dans le pays. Alors, on pourrait se dire que, je ne sais pas, j'arrive pas à le dire ça, que ce décret aurait une production quelque part pour les États-Unis, mais non. Même la façon dont il a d'être libellé, c'est-à-dire selon... les pays dont viennent les personnes musulmanes, c'est absolument contre-productif, car interdire l'entrée à des ressortissants désignés de sept pays, ce n'est absolument pas un indicateur fiable contre la menace terroriste, ce que Trump essaye aussi de nous faire croire. Donc cette mesure risquerait même d'être instrumentalisé par des personnes déclarant que le gouvernement des États-Unis est en guerre contre l'islam et on pourrait malheureusement penser que les terroristes pourraient utiliser aussi cette mesure. Alors, je vais vous résumer. Alors, j'espère que c'est peut-être la dernière fois. Ce qu'Amnesty demande et que toute personne de bon sens pourrait demander. Le président américain doit arrêter d'abuser de son pouvoir. Il est temps qu'il respecte les engagements des États-Unis envers les réfugiés les plus vulnérables, qu'ils mettent fin à l'interdiction discriminatoire vis-à-vis des personnes musulmanes, arrête d'attiser la haine et la division, parce que les États-Unis, malgré les gesticulations de ce président, ont pris des engagements de longue date en matière des droits humains et que ces engagements sont très, très gravement mis à mal. Donc là, voilà, moi, je vous parle d'un texte, je vous parle de choses, on imagine, posées sur un papier. Mais je crois que Sabine, tu vas nous le démontrer dans la vie des gens. Oui, à quoi ça peut correspondre?
Une histoire parmi tant d'autres, donc qui aboutit malheureusement par rapport à ça. Aux États-Unis, ça a été publié le 9 mars 2017, donc c'est vraiment pas vieux. Aux États-Unis, un bébé bloqué par le décret anti-musulman, c'est un choix déchirant à laquelle aucune famille ne devrait être confrontée. Devaient-ils rester ensemble avec leurs deux filles en bas âge et laisser passer ce qui serait peut-être leur seule chance d'échapper aux horreurs de la guerre ou rejoindre la liberté, mais laisser derrière eux leur bébé d'un an dans un pays étranger à l'autre bout du monde? C'est le dilemme insoutenable auquel ont été confrontés Bara Ahmed, qui est une personne binationale américo-yéménite, dont le nom a été modifié, bien sûr, et son épouse qui ont été séparées de l'enfant qu'elle nourrissait encore au sein.
Oh là là !
À la suite de la signature par le président.
C'était Françoise.
Oui, Françoise qui est horrifiée.
Oui, attends, c'est pas fini. Du décret discriminatoire relatif à l'entrée sur le territoire des États-Unis. Sans cette décision du président, elle n'aurait jamais laissé sa fille en Malaisie pour entrer aux États-Unis. Elle n'aurait jamais abandonné sa fille pour rien au monde, dit-elle. Mais ce décret nous a vraiment obligés à le faire. Qu'est-ce qui a pu les amener à confier leur bébé aux bons soins d'amis en Malaisie, pays situé à 15 000 km, où ils n'ont pas de proches? Le rêveur américain Bara Ahmed a quitté le Yémen il y a plusieurs années pour chercher du travail aux États-Unis, offrir une vie meilleure à sa famille. Il s'est installé dans la ville de New York où il travaille actuellement comme commercial. En 2014, il a obtenu la nationalité américaine par naturalisation. Puis, la même année, a parrainé sa femme et sa première fille, qui commence aujourd'hui à marcher, pour qu'elles obtiennent des visas et puissent le rejoindre. Jusqu'ici, l'histoire de cette famille ressemble à celle de beaucoup d'autres familles du monde entier qui travaillent dur pour se construire une nouvelle vie aux États-Unis. Cependant, deux événements, catastrophiques et imprévus, ont fait de leur rêve américain un cauchemar qui dure encore actuellement. Tout d'abord, des troubles politiques au Yémen ont évolué vers un conflit armé sans clan en mars 2015 et les civils ont été pris entre les bombardements aériens et les attaques terrestres qui ont entraîné le déplacement de 2 millions de personnes. En janvier 2017, après être arrivé au pouvoir sur fond de xénophobie malsaine et de division, le nouveau président américain a signé ce fameux décret interdisant à tous les ressortissants du Yémen et de 6 autres pays à majorité musulmane d'accéder aux États-Unis. Décret anti-immigration, toujours discriminatoire, toujours inhumain. D'après Trump, le but de ce décret était d'empêcher les terroristes d'entrer sur le territoire. C'est sûr qu'un bébé...
Un bébé, ça c'est vrai que c'est dangereux.
Toutefois, dans les faits, cette mesure manifestement discriminatoire a semé la peur parmi les réfugiés qui fuyaient la guerre et les persécutions et a créé un véritable chaos pour des milliers de personnes dans le monde qui, comme la famille de Bahr Ahmed, étaient déjà enlisées dans de très longues procédures de demande de visa et de vérification de leurs antécédents. Compte tenu de la situation au Yémen, j'ai voulu faire venir ma femme et ma fille ici parce qu'elles vivaient dans une des régions les plus touchées pendant la guerre. Je voulais que nous soyons ensemble, mais ma principale préoccupation, c'était la guerre. Quand furent les ravages de la guerre à un coup, après que les troubles eurent forcé l'ambassade des États-Unis à Sanaa, la capitale du Yémen a fermé, Bahr Ahmed a pris des dispositions à grands frais pour que sa femme et leurs deux fillettes puissent se rendre à Kuala Lumpur, en Malaisie, où elles pourraient poursuivre leur procédure de demande de visa. Un homme de leur famille a dû les accompagner quand elles ont quitté le Yémen à la fin du mois de mars 2016 et leur itinéraire leur a fait traverser 3 pays différents avant qu'elles ne trouvent enfin un avion pour la Malaisie. De son côté, Bahr Ahmed a pris un vol de New York à Kuala Lumpur pour les rejoindre. Au cours des 11 mois qui ont suivi pendant qu'elles attendaient leur visa, il estime avoir dépensé plus de 40 000 dollars en billets d'avion. Location d'appartements et de voitures et autres frais, notamment de visa. Donc c'est quand même des gens qui ont un certain pouvoir. Hein. Inutile de dire qu'il y en a, c'est même pas la peine. C'est peine perdue. Hein. Donc la guerre,
Et donc on pourrait dire que le décret de Trump ne vise pas les bonnes personnes. Enfin,
non,
c'est
plus.
Pas du tout des terroristes. Non. On est sur des gens qui veulent s'intégrer complètement.
Et dont lui avait vécu déjà pas mal d'années. Cependant, la confusion totale à laquelle ils ont été confrontés, a été bien pire que les dépenses et l'attente. Comme la plus jeune des filles était née fin 2015, plus d'un an après que Bahr Ahmed eut parrainé les demandes de visa pour sa femme et sa fille aînée, il a fait une demande de visa distincte pour la cadette, puisque elle arrivait après aussi. Hein.
Il souvent le cas payer... des cadettes.
Il a logique. Dû payer un coûteux. Il aurait dû le faire avant quand même.
Il aurait dû penser qu'il allait avoir une fille. Ah. Là.
Et il a dû payer un coûteux test de paternité parce qu'en plus,
il faut prouver
que c'est quand même sa fille. Malgré les multiples entretiens qu'il a eus sur son cas avec des fonctionnaires de l'immigration des États-Unis, les assurances qui lui ont été données à plusieurs étapes de la procédure, la demande de visa pour le bébé est restée séparée de celle qui concernait le reste de la famille, logique. Si bien que lorsque sa femme et sa fille aînée ont obtenu leur visa, à la fin de l'année dernière, la demande pour la cadette n'avait pas avancé. Là encore, ils ont dû attendre. Donc la famille a été déchirée par une simple signature. C'est alors qu'est arrivée la terrible nouvelle du décret anti-immigration adopté par Donald Trump le 27 janvier. Et lorsqu'une cour fédérale du district a prononcé une suspension temporaire, les Yéménites qui avaient des visas américains en cours de validité se sont précipités aux États-Unis pour éviter d'être touchés par une nouvelle interdiction. Sans nouvelle de la demande de visa déposée pour leur bébé, Bara Ahmed et sa femme ont dû prendre une décision inimaginable, rejoindre les États-Unis en laissant leur petite fille derrière eux. La seule solution que j'avais était de confier mon bébé à un ami et à sa femme et de rentrer aux États-Unis pour y amener ma femme et ma fille aînée, dont la demande avait été acceptée. C'était un choix terriblement difficile, mais qu'est-ce que je pouvais faire ? Je n'avais pas d'autre solution. Je ne pouvais pas courir le risque qu'elles perdent toutes les trois leur chance d'entrer, a-t-il déclaré à Amnesty International. Il connaît des difficultés financières et attend que les cartes vertes de sa femme et de sa fille aînée leur soient officiellement délivrées. Pour l'instant, la famille ne peut pas retourner en Malaisie, même pour aller voir le bébé. Ces événements ont mis la santé mentale de sa femme à rude épreuve. Ma femme allaitait encore le bébé lorsqu'il a été séparé de sa mère. Je peux vous dire qu'elle est comme folle maintenant. Elle n'est pas dans son état normal. Elle m'en veut. Elle dit que c'est ma faute. Vous pouvez imaginer à quel point son enfant lui manque. Pardon. Moi aussi, je souffre profondément à l'intérieur. Je suis anéantie d'avoir abandonné mon bébé. C'est Raya Ragek, conseillère principale sur les situations de crise d'Amnesty International, qui nous a fait part de cet article. Donc voilà, il faut aller signer la pétition.
Voilà, sur
au nouveau décret anti-réfugiés voilà. Du président Donald. Elle est en ligne, allez-y, il faut vraiment.
Faites nombre. Faire et il y a déjà, on a reçu un mail, il y a eu déjà beaucoup de signatures sur une semaine, mais il faut continuer.
Hein. L'objectif, c'était 25 000 signatures, voilà. Je crois. On était à 12 ou 13 000, donc il faut continuer.
Et vraiment.
Mais bon, je pense qu'il va lui en falloir beaucoup à celui-là.
Oui, mais il faut.
Parce qu'il n'est pas très à l'écoute.
Ça va être dur, Sabine, mais il ne va pas falloir lâcher. Et on ne lâche pas. On ne lâche pas.
Et faudrait pas mettre les prénoms des femmes non plus.
Voilà, mais on peut. Et montrer comment l'inhumanité d'un décret complètement discriminatoire, comment ça peut arriver à foutre en l'air une famille, il n'y a pas d'autre mot, et une mère et un bébé.
Entre tant d'autres. Hein,
entre
lui
tant d'autres.
A témoigné, donc je suppose que ce n'est pas un
donc
cas.
C'est aussi mettre les gens dans des situations où on prend dès que la porte s'en trouve, en se disant peut-être qu'elle va se refermer, donc ça ne va pas.
Alors
ça va
qu'il
pas
a fait le nécessaire, mais évidemment,
voilà, ça va pas
on ne met pas les papiers dans le même dossier, ce qui...
Donc nous, on continuera. Voilà, on espère qu'on aura des meilleures nouvelles après. Les Américains aussi se mobilisent. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais il y a beaucoup d'opposition au niveau des États-Unis, beaucoup de mouvements, des villes comme Los Angeles qui se déclarent ville ouverte par rapport à ces politiques anti-musulmanes et anti-immigration. Mmh. Donc, allez signer sur le site.
Et quand on pense que les Simon Lafarge sont d'accord pour construire le mur que veut installer Trump par rapport au Mexique.
Et en parlant du mur du Mexique, je sais que Roger Waters, donc qui était le chanteur, le fondateur du groupe Pink Floyd, il veut faire The Wall. Il veut faire The Wall comme il avait fait la chute du mur de Berlin. Il avait fait un spectacle. Il a fait The Wall au niveau du mur. Et là, gratuitement, tout ça, parce qu'il est complètement anti-Trump et tout, il veut à la frontière du Mexique refaire un truc géant avec The Wall derrière. Il a un projet, je pense, qui va aboutir. Et c'est vrai que ça bouge là-bas,
Il faut que ça bouge, mais on pourrait aussi dire ce que dit Françoise, voilà, où va l'intérêt, ou comment l'argent peut aussi donner des forces à des solutions complètement inhumaines. Effectivement, Lafarge, voilà.
Ça dépend. S'il attend d'être payé par le Mexique, il est mal barré.
Non, mais c'est honteux.
Parce que c'est là que c'est honteux, parce qu'en fin de compte, il construit un truc, mais il fait payer par les autres.
Mais je pense pas.
Alors, je vais vous donner quand même une bonne nouvelle. Responsabilité des entreprises, une avancée historique.
C'est quoi ça, Françoise ?
Eh bien, vous avez entendu parler de notre campagne « Faites pas l'autruche ».
Oh oui, c'était rigolo. Vous vous rappelez ?
Oui.
Mais bon, il y en a beaucoup qui continuent.
Voilà, c'est un peu justement mettre un peu de moralité dans les entreprises.
Mais là, ils font l'autruche sans planquer la tête.
La tête dans le sable. Hein,
ils font l'autruche la tête droite.
Eh bien, pour obtenir l'adoption en France d'une loi sur le devoir de vigilance, justement, des multinationales vis-à-vis des violations des droits et des dommages environnementaux provoqués par leurs sous-traitants et fournisseurs, notre mobilisation a payé. Le 21 février, la loi a été définitivement adoptée. La campagne s'arrête donc. Cependant, des parlementaires ont déposé des saisines pour attaquer le texte devant le Conseil constitutionnel. La décision est attendue d'ici le 23 mars. Il nous faudra donc rester mobilisés pour défendre cette loi qui va dans le sens des droits humains.
Oui. D'abord, on va vous tenir au courant, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, j'en ai parlé en émission au début d'année, et on en a déjà parlé plusieurs fois.
Oui. Et c'est effectivement, c'est les ciments de la farge, c'est-à-dire que voilà, on peut mettre les sous n'importe où, on peut fermer les yeux, on peut faire travailler des gamins. Moi, il y a un texte là que j'ai vu sur le site d'Amnesty, mais que j'ai passé. On vous avait fait signer, on vous a dit par rapport au téléphone, par rapport à Samsung, des pétitions, par rapport à.
Et je sais qu'aux dernières nouvelles, c'était Apple qui avait répondu. Je sais que Samsung, je crois qu'ils ont toujours pas répondu. Apple avait dit qu'ils allaient essayer de faire quelque chose et tout. Pour l'instant, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas, je sais pas, mais au moins eux, ils ont répondu.
Donc, c'était les minéraux rares qui étaient pris en RDSA, récupérés en RDC par des enfants, dans des conditions pas possibles. Il y a aussi les batteries de nos voitures électriques.
À la dernière émission, du travail des enfants.
Voilà. Oui. Et les voitures électriques, la petite Zoé, vous savez, la petite Renault sympa, là.
Oui, oui.
Eh bien, il y a du cobalt dans sa batterie, et puis ça vient aussi de RDC,
mais dans toutes les batteries, c'est pour ça qu'on parle...
on leur demande de savoir d'où viennent
leurs... C'est notre débat, mais quand on parle de voitures électriques, trucs électriques, moi, dès qu'il y a une batterie, tout ça, pour moi, c'est pas écolo, mais bon, c'est un truc...
on veut la responsabilité des constructeurs automobiles. Donc, on vous en reparlera sûrement. Et c'est un peu cette loi qui nous semble importante. Et c'est aussi quand même un peu dommage que certains députés fassent des saisines, c'est-à-dire continuent à laisser un peu de pouvoir. Comment dirons-nous ça? À l'argent, Sabine?
Oui,
ça te va?
Oui, sûrement.
On s'arrêterait là? Voilà.
Oui,
certains lobbies économiques. Et nous, on n'est pas forcément.
Et puis, si ça peut leur apporter, il n'y a aucun souci.
On s'occupe pas de la vie des gens.
On l'entend tous les jours.
Mais comme on a dit tout à l'heure, on ne lâche rien, nous.
Ah non.
Écoutez, Françoise, la parole de la raison. Allez, Françoise.
Alors, c'est Ronan qui va nous donner une bonne nouvelle sur la Chine.
Tout à fait. Alors là, je vais vous en vouloir parce que j'ai encore des noms.
Il aurait des noms à prononcer?
Des noms à coucher dehors encore.
Chinois, simplement chinois.
Merci les filles. Alors, des condamnés à mort, des carrés non coupables en Chine.
Ah ben ça, c'est rare. C'est une très bonne nouvelle.
Alors eux, ils n'ont pas de bol, ils cumulent l'erreur.
Mais ça,
ça veut dire que la justice fait des progrès.
Mais avant qu'ils soient déclarés non coupables, il y aura quand même eu 13 ans. Quand même. Plus de 13 ans après la condamnation à mort de Huang Xigian, Fan Chunping et Cheng Fanzhen et Cheng
Yi. C'est un monsieur ou une dame?
Sans commentaire. C'est pas fini parce que le tribunal populaire supérieur de la province de Jiangxi.
Jiangxi, oui, c'est très joli.
Jiangxi les a innocentés. Donc les quatre hommes, ça a ta réponse?
Quatre hommes, merci. Voilà. Tu vois, je sentais.
Les quatre hommes avaient demandé en 2016 à bénéficier d'un nouveau procès, affirmant avoir avoué leur crime sous la torture. À la suite d'un procès à huis clos, le 30 novembre 2016, le tribunal a déclaré qu'il y avait des contradictions dans les preuves et que l'authenticité et la légalité des aveux des quatre hommes étaient incertains. Les quatre hommes ont été libérés à l'issue de ce nouveau procès. Donc, ils ont quand même attendu 13 ans et ça prouve que ça bouge quand même un petit peu en
Chine. Voilà, il y a quand même aussi... Voilà.
C'est très, très long, mais...
mais la Chine est en train d'essayer de bouger. Alors, si pour une fois que c'est dans le bon sens, l'autre fois, j'avais parlé des problèmes des avocats et c'était pas dans le bon sens.
Rester en Chine à faire libérer des gens qui sont en prison depuis 13 ans, en plus que leurs aveux ont été faits sous la torture
accepter que...
Et que la Chine accepte qu'ils ont fait cette erreur à 13 ans, bon, c'est quand même
un progrès. Oh
ouais. c'est quand même...
C'est une bonne nouvelle. Ronan, on la reconnaît tout à fait.
M'a dit que c'est tout à côté, pays de la liberté, pays. J'ai vu des hommes décharnés, j'ai vu des femmes, des enfants aux cheveux orangés, j'ai vu des larmes. J'ai marché. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai marché. Mais je n'ai pas trouvé. Pas
passe tout à côté de la vie. Grand coup de pinceau, passe tout à côté de la vie. Passe tout à côté. J'ai marché. On voit des mains, des bras tendus. On croit que c'est des mains. On claque toutes les guenilles. On claque toutes les guenilles. J'ai croisé des hommes décharnés, des enfants couverts de bleu. Perdaient leurs dents, perdaient leurs cheveux. J'ai bien vu dans leurs yeux. Mais c'est haut, c'est haut, mais c'est haut. Mais c'est haut, mais c'est haut. Mais c'est haut, mais c'est haut, mais c'est haut. Mais c'est haut, mais c'est haut, mais c'est haut. Mais c'est haut, mais c'est haut. Mais c'est haut. On a dit que c'est d'à côté. Pays de quoi, de la liberté. J'ai cherché. Paraît qu'il me pendait tonné. Mensonge. Des hommes décharnés, tendre la main qui, avec une plaie sur le côté, où l'on voit. J'ai cherché. On voit des hommes décharnés, tendre la main qui. Certains disent même que c'est tout près, qu'on marche parfois dessus. J'ai cherché. Mensonge.
Alors, cette chanson pour les réfugiés qui commençait, on cherchait.
Ah, ça fait plaisir d'écouter.
Le pays de la liberté, c'était le morceau du titre.
Donc moi, je vais attaquer là par une bonne nouvelle.
Continue, Renan.
Plus de 800 000 signatures provenant des quatre coins du monde ont été remises par le secrétariat général d'Amnesty International, Salih Chetty, à Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général. Mais qui a-t-il dans ces signatures? Donc, ces signatures avaient un seul message. Il faut ouvrir des voies légales pour que les réfugiés se mettent à l'abri des persécutions et de la guerre sans devoir se mettre en danger. En France, nous avons adressé vos signatures, nous disons nos signatures parce que c'est nous, c'est vous, tous les sympathisants
d'Amnesty.
Donc on les a adressés à François Hollande pour donner un coup d'accélérateur à l'accueil des réfugiés. Plus de 12 000 personnes doivent être accueillies d'ici la fin de l'année, mais seules 2 200 personnes sont arrivées sur notre sol. Donc je ne sais plus qui prend la parole là.
C'est Sabine.
On va faire des témoignages aussi sur le sort des réfugiés en Europe et puis après en France. Allez Sabine, à toi.
Moi, je vais parler de la Hongrie, où les demandeurs d'asile sont dans des conteneurs actuellement. Hein. Ça a été publié aussi début mars, là, le 9.
Tu peux redire ce que tu viens de dire, là ?
en Hongrie, en Hongrie.
Non, pardon, mais le pays, j'ai entendu, mais ils sont dans quoi?
Les demandeurs d'asile sont dans des conteneurs.
Alors, on peut dire des fois, moi, j'ai vu des expériences, des conteneurs aménagés pour des étudiants. Des conteneurs aménagés.
Genre loft, tu veux dire qu'ils sont...
Non, pas du tout, c'est des conteneurs, voilà.
Oh, vas-y, raconte-nous. Ah,
donc, le Parlement hongrois a adopté des mesures pour permettre de détenir automatiquement les personnes qui demandent l'asile dans des conteneurs. Une violation flagrante du droit international. Si ça avait été des lofts, je ne suis pas sûre qu'on en ait parlé en ces termes-là. Ils sont détenus purement et simplement.
Donc, demandeurs d'asile, on se rappelle, ils sont en danger chez eux. L'asile, c'est un droit fondamental et le dernier qui existe.
Voilà.
Et c'est ça.
Et la protection internationale qu'ils ont, bah c'est ça. Voilà. On les détient.
Vous n'allez pas en vacances en Hongrie cet été, non? On va peut-être boycotter aussi un petit peu.
Non, moi, heureusement, je dois partir en Roumanie. J'espère que ça se produit pas.
Ouais, on lancera des pétitions, Françoise. Donc, selon la loi adoptée, tous les demandeurs d'asile présents en Hongrie et toutes les personnes qui solliciteront une protection internationale devront être transférées dans des zones de transit. Pas pour protection, mais près de la frontière avec la Serbie. Là, ils seront détenus dans des camps composés de conteneurs pour la durée de leur procédure d'asile. Les adultes comme les enfants sont visés. Les adultes comme les enfants qui les accompagnent sont concernés par cette nouvelle atteinte aux droits fondamentaux. Aucune mesure d'exception n'est même prévue pour que les personnes les plus vulnérables ou âgées, les enfants non accompagnés, c'est-à-dire sans adultes responsables d'eux, pourront également être détenus à partir de 14 ans. Il y a une pétition en ligne. Stop à l'utilisation abusive des lois antiterroristes en Hongrie. Je vous invite à aller la signer. Une mesure exceptionnelle qui ne le sera plus. Cette nouvelle atteinte aux droits humains des réfugiés est censée s'appliquer dans le cas d'une situation de crise liée à une immigration massive, selon les termes mêmes de la loi. Cette situation de crise a été déclarée au mois de septembre 2015 pour une période allant jusqu'au mois de septembre 2017. Mais le Parlement hongrois a également abaissé le seuil requis pour invoquer la situation de crise, rendant son usage beaucoup plus facile. Donc l'Union européenne ne prend pas sa part de responsabilité envers les demandeurs d'asile et la Hongrie viole le droit international. Priver une personne de sa liberté est une mesure grave. Le droit international fixe des critères précis et stricts. La détention des demandeurs d'asile doit impérativement être une mesure de dernier ressort. Elle ne peut pas être appliquée de façon arbitraire ni automatique. Chaque décision doit être individualisée et prise sous le contrôle d'un juge avec une possibilité de recours pour la personne concernée. Les enfants ne doivent jamais être détenus pour la seule raison qu'ils sont réfugiés. Ces quatre critères montrent sans aucun doute que possible que la Hongrie porte atteinte au droit international et au droit européen. L'Union européenne doit réagir de toute urgence pour rappeler à la Hongrie qu'elle ne respecte pas les règles de l'Union. Voilà où on en est aujourd'hui.
Donc on va signer. Donc, là aussi, on montre notre désaccord.
Alors pour signer, consulter.
Bah, le site d'Amnesty.
Bah, faut aller au site d'Amnesty. Et la pétition, c'est stop à l'utilisation abusive des lois antiterroristes en Hongrie. Vous tapez Hongrie, demandeur d'asile.
Oh, sur la page d'accueil. Cherchez pétition, agir.
Il y en a pris un signé, vous prenez un quart d'heure, 20 minutes, vous le lisez.
C'est très rapide. Voilà.
Donc voilà l'accueil. On enferme les enfants, les vieux, les moins vieux.
Les bébés.
Des gens qui partent en espérant trouver... Oui, l'espoir,
Moi,
de liberté, comme dit Manset, et ils se retrouvent dans un conteneur, voilà, enfermé, détenu, et j'imagine les conditions de détention.
Je vais faire un témoignage.
On suivra, j'essaierai de trouver d'autres articles, parce que c'est une aberration totale, et je trouve qu'en ce moment, il y en a beaucoup le monde.
Il y a beaucoup de choses qui nous choquent énormément.
Mais il y a quand même des éclairs. Ouais. En France, notamment.
Voilà, mais avant de parler de la France, parce qu'effectivement, on a envie de vous parler de quelques endroits, et je dis bien quelques endroits en France où l'accueil se fait de façon...
Meilleure.
Voilà, on va dire... Je voudrais vous faire un témoignage un peu comme Sabine a parlé tout à l'heure de la vie de cette famille déchirée par rapport au fait de laisser son bébé, pour qu'on se rende compte ce que c'est de partir de chez soi et quelle complications on doit vivre. Donc là, c'est le parcours d'une femme qui s'appelle Fatina. Donc elle vient d'Alep et là, elle est maintenant arrivée dans la région lyonnaise en France. Fatina voulait se rendre en Europe pour soigner son mari, grièvement blessé aux yeux après un bombardement sur leur ville, Alep en Syrie. Et là, depuis décembre dernier, elle élève seule ses 4 enfants dans un CADA. Donc le CADA, c'est le centre d'accueil et demandeurs d'asile, où sont les gens qui demandent l'asile en France. Donc c'est quand même pas des conteneurs, Sabine, même si il y en a pas assez, que les conditions de...
En Hongrie, ça l'est.
Voilà, donc nous en France, ça ne l'est pas. Donc elle est près de Lyon, en France.
Oui, ils ont fait des habitations, et voilà, des habitations d'urgence.
Donc ce qui s'est passé pour cette famille... Donc Fatina a quitté son pays avec son mari et leurs 4 enfants.
4 enfants.
4 enfants. Merci Françoise. Oui, c'est parce que je disais la ligne d'être. Françoise, reprends-moi quand je fais des fautes. Merci. Donc il y a 2 filles de 7 et 5 ans et des jumeaux. Une fille et un garçon de 2 ans. Donc des petits bouts de choux. Notre situation économique, dit-elle, s'était terriblement dégradée depuis l'incendie qui avait ravagé l'usine dans laquelle travaillait mon mari. Nous n'avions plus d'argent. Alors, pour partir et trouver en Europe les soins adaptés aux problèmes oculaires de mon mari, nous avons dû récolter des dons nécessaires au voyage. Donc, la famille arrive en Turquie. La famille paie la traversée vers la Grèce. 5000 livres turcs, environ 1200 euros par personne, je vous rappelle. 4 petits bouts de choux et les parents. C'est un trajet de 5 heures sur une embarcation de fortune. Et malheureusement, le mari de Fatina n'a pas survécu au voyage. Le décès de cet homme a été déclaré dans un hôpital quelques jours après leur arrivée en Grèce. Alors commence pour Fatina un périple avec le deuil de son mari. Et elle est responsable seule de ses 4 jeunes enfants. On imagine sa douleur, on imagine l'horreur de cette femme seule en pays étranger. Sur l'île de Lesbos où ils arrivent, Fatina et ses enfants sont transférés dans un premier, puis un second centre d'accueil de réfugiés. Elle nous dit « La vie dans ces camps était très difficile. Nous vivions sous une tente en plastique, sans rien à l'intérieur et il faisait très froid. Pour accéder aux sanitaires, il fallait marcher 10 minutes et l'eau des douches était glacée », se souvient Fatina. Plusieurs trajets quotidiens particulièrement difficiles pour une femme seule avec 4 jeunes enfants. Partout où je vais, je dois me déplacer avec eux. Ils sont trop petits. Et dans ces conditions, c'était terrible, ajoute la maman. Dans ce camp, Fatina entend parler du programme de relocalisation. Oh, Françoise, faut que tu m'aides là. Alors, il y avait des tracts qui expliquaient en quoi consistait ce programme. Et puis, avec le bouche à oreille, tout le monde dans le camp en parlait. Près de 3 mois après son arrivée sur l'île de Lesbos, la famille obtient une place dans un hôtel à Mytilène, la capitale de l'île. Ils y restent 2 mois à attendre le transfert vers la France. Alors je vous rappelle, le programme de relocalisation a été signé en septembre 2015. Les États européens annoncent un grand plan de solidarité. Objectif, reloger 160 000 personnes qui sont dans le danger, donc comme une femme et des enfants, ces gens qui étaient dans les camps en Grèce ou en Italie, vers l'autre pays d'Europe. Ce qu'on peut dire en février 2017. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. Seules 13 000 personnes ont été relogées. Certains pays n'ont accueilli personne. C'est le cas de l'Autriche, de la Hongrie. On voit bien ce que Sabine vient de nous parler. De la Pologne. La France, elle, a accueilli 282 personnes en provenance de l'Italie et 2476 en provenance de la Grèce. Donc, on reprend l'histoire de Fatina. Quand Fatina a appris qu'elle pouvait bénéficier avec ses enfants de ce programme, ses sentiments étaient partagés. Nous venions avant tout en Europe pour sauver mon mari. Avec sa mort, je n'avais plus d'espoir. et je ne voyais plus l'intérêt de venir en France, murmura-t-elle. Son entourage lui explique qu'en France, ses enfants pourront vivre en paix, avoir accès à une bonne éducation. Maintenant, je suis là que pour mes enfants, ajoute Fatina. Les deux grands, dans le CADA à Lyon, vont à l'école et pour les jumeaux, ce sera à la rentrée prochaine. Si sa situation s'est améliorée depuis qu'elle est arrivée en France et stabilisée, Fatina est inquiète. C'est difficile pour une femme seule de s'occuper de quatre enfants si jeunes. La famille vient d'obtenir un permis de séjour et pourra espérer s'installer dans un appartement dans les mois qui viennent. Voilà, ça c'est la vraie vie de personnes qui partent.
Qui fuient.
Voilà, le pays et la guerre. Et en aucun moment, ils veulent prendre la place, prendre les sous. Ils sont dans une détresse pas possible. Voilà ce qu'on peut vous donner comme témoignage. Alors, on voulait un petit peu, on va s'y mettre à plusieurs, vous parler un petit peu de la situation en France, parce que bon, il y a quelques personnes d'accueillies, je vous en ai parlé, et la chronique. Alors, la chronique, je vous rappelle, c'est le journal mensuel d'Amnesty. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller la regarder sur Internet, et ça vous donne des informations dont souvent on vous prend des thèmes quand on fait la radio. Donc, en France, il y a, sur la chronique de ce mois-ci, un reportage qui parle du cas de Grande-Synthe. Mm. Alors, Grande-Synthe, vous mettez ça où, mes amis ?
Dans le Nord.
Bien, c'est à côté de Calais. Mm. Alors, Grande-Synthe, ce qui s'est passé, le maire de Grande-Synthe, vous avez peut-être entendu parler en 2016, lui, il a vu arriver des tentes dans sa ville en 2006.
Monsieur Damien Carême.
Oui, il faut dire son nom, je pense.
Damien.
En 2008, les tentes, la mairie, elle fournit une tente chauffée pour l'hiver, vu la condition des gens qui voulaient passer en Angleterre. Ils commencent un petit peu à faire des actions. En 2015, la frontière entre Calais et l'Angleterre est fermée. Le nombre de réfugiés de Grande-Synthe grossit. En novembre 2015, il y a 1800 réfugiés dans le camp de Baroche à Grande-Synthe. Et alors, décision est prise de déplacer le camp, car le maire ne supporte absolument plus l'état de honte. Il dit que c'est le camp de la honte et l'état de vie des gens dans ce camp-là. Donc, c'était abominable. Sur le camp, il y avait la gale, des suspicions de tuberculose. Je ne voulais pas avoir de mort à cause de ça dans ma commune. Damien Carême refuse de demander à l'État le démantèlement du camp. Jamais. C'est impossible. Politiquement, philosophiquement, éthiquement, tout en moi s'oppose à cette solution. Alors, il cherche une autre solution. Il passe un coup de fil au préfet, des courriers au Premier ministre, toujours rien. Alors, j'ai compris qu'il fallait que je me démerde tout seul. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et en novembre 2015, les associations comptabilisent 1800 personnes. Il annonce, avec Médecins Sans Frontières, la construction d'un camp en dur au sud-est de sa ville.
Ça, je me rappelle, on en a parlé à la radio. Hein.
Voilà, donc il a réussi à faire ça. Donc, il faut dire Grande-Synthe, pour donner un petit peu l'exemple, c'est vraiment une ville solidaire qui peut compter 450 associations. Mais c'est une ville aussi qui a eu Usinor, la métallurgie, qui maintenant a un taux de chômage de 24%, loin des 10% en moyenne en France. Un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Usineur a eu son âge d'or, mais c'est aussi Grande-Synthe, une ville qui a connu des flux migratoires, qui a construit le Nord-Pas-de-Calais. Les Polonais, les Portugais, les Italiens, les Algériens, les Marocains et aussi les Lorrains, comme Damien, sont venus habiter cette région. Et il y a autour du camp vraiment une solidarité de la ville. Et ce maire-là est très fier de sa ville, qui a fait corps avec lui pour pouvoir vraiment aider les réfugiés. Ce qu'il nous dit, il nous dit qu'il faut absolument se bouger et qu'il faut vraiment mettre des conditions dignes pour que ces gens-là puissent vraiment pouvoir demander aussi leurs droits, c'est-à-dire qu'il y a un centre d'information dédié aux questions juridiques, des demandes d'asile pour qu'on puisse, les demandes d'asile soient faites normalement, calmement. Que ce n'est pas évident son camp, car il y a aussi tout un travail à faire contre les passeurs. Il nous dit que pendant un an, il a démantelé 28 réseaux de passeurs.
qu'il a même aussi été obligé de forcer des fois dans le camp des cabanes qui étaient fermées car les passeurs avaient décidé de faire payer pour que les gens soient dans ces cabanes. Alors, ces cabanes, c'est un camp style réfugié. Hein, ce n'est pas du tout quand même quelque chose de luxueux, mais c'est quelque chose de respectueux de la vie des gens. Oui. Donc ça, c'est une solution où il y avait tout un article avec toutes les réflexions sur ce maire-là. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors, je vais vous parler aussi. Mais j'aimerais bien que quelqu'un parle avec moi parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup. Là. Chamonix, vous situez ça où, Chamonix?
Quand même.
Ah ben oui, alors, mais vous ne parlez pas, je cherche.
Juste pour dire que Damien a été... Il y a eu un classement des maires et il arrive... avec le maire de Lampedusa, classement établi par la City Mayors Foundation, qui distingue les maires impliqués sur la question des réfugiés. Et ces deux-là font partie de ceux qui ont fait le plus...
C'est un classement européen.
Oh, sûrement, oui.
Au niveau de l'accueil des réfugiés.
Mais il faut en parler, parce que c'est vrai que toujours on parle de ce qui ne va pas, et c'est vrai quand même. Ça, il faut en parler.
C'est bien de montrer qu'il y a des endroits où on prend soin de ces gens-là.
Et il a effectivement démantelé 28 réseaux. Et le projet qu'il a quand même a un coût de 4 millions d'euros qui doit se faire avec
l'État.
Avec Médecins Sans Frontières.
Et avec l'État. Avec l'État a aussi donné...
L'État a pris conscience du travail qui a été fait et donc...
Donc, il faut continuer.
Alors, Chamonix, vous mettez ça bien à la montagne, quand même.
Oui.
Voilà.
C'est vrai que c'est un peu plus au sud.
Alors, Chamonix, voilà, on peut dire aussi que c'est un maire. Un maire aussi qui dit que dans sa commune, il y a un côté melting pot. Il y a 45 nationalités qui se côtoient. Que là aussi, c'est un pays d'arrivée, que son grand-père est venu du Valais, que ses autres grands-parents viennent d'Italie. Qu'ici, il y a le danger de la montagne. On sait la fragilité de la vie. Et l'engagement de Chamonix ressemble à celui de nombreuses villes en France. Un simple geste d'humanité. Et quand il y a eu le démantèlement de camp de Calais, l'annonce de la répartition et des réfugiés dans les départements, il y a le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, Laurent Wauquiez, donc le président de la région dont fait partie Chamonix. Qui a vraiment dit qu'il ne voulait aucun réfugié. Vous devez vous en rappeler aussi,
ça a
fait. Et ce maire, il est du même parti que Laurent Wauquiez. Ben lui, il a dit, OK, voilà, chacun dit ce qu'il veut, mais chacun dit ce qu'il fait, parce qu'on est dans une commune. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Il dit, je suis serein, nous avons décidé d'être candidats à l'accueil, bien avant les prises de position de M. Wauquiez. Dans les communes, nous avons chacun notre liberté de pensée et d'action. Donc tous les maires des communes, là, écoutez bien, dans votre commune, vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Et il dit, même si, bon, il respecte Laurent Wauquiez, mais lui, il fait ce qu'il pense bien pour sa commune. Alors lui, ils ont créé deux logements. Et ce qu'il y a, c'est que là, tout de suite, ils n'avaient pas encore de réfugiés parce que souvent, l'État a mis les réfugiés dans des plus grandes villes que Chamonix. Mais là, quand la chronique a été faire l'interview de ce maire, là, donc début décembre, ils ont appris qu'une famille allait arriver. Et ce que dit ce maire aussi, c'est vraiment des phrases aussi importantes. Il dit « Pour moi, les valeurs de la République, le drapeau tricolore ne sont pas rien ». Le terrain politique ne doit pas être dans l'affaire des réfugiés. L'accueil des réfugiés est un droit fondamental. Il fait partie en France de nos racines, de notre identité, de notre culture. Il existe un chemin étroit entre responsabilité et conviction, admet ce maire. Alors, il faut qu'on dise son nom aussi, Sabine. C'est Éric Fournier.
Oui.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait le choix de mandats locaux et régionaux. Je veux les assumer. Et il n'a pas envie d'avoir une place au niveau national. Il veut avoir une implication au niveau local. Donc, on espère que la famille qui va arriver à Chamonix,
oui,
ça va bien se passer pour eux.
Il y a la Maison Bleue qui l'a fait.
Ça lance,
mais bon, c'est pareil. Ça s'est mis en place en même temps. Hein, ils ont aussi un parrainage des enfants et ils travaillent sur les enfants isolés.
Ce sont des jeunes, voilà.
Qui est en train de se faire là-dessus. Eh bien, bravo, là, franchement. Des gens comme
chapeau.
Ça, il faudrait... faut qu'on voie et puis on en parlera. On continuera à suivre.
Voilà.
Alors,
un troisième exemple rapide.
C'est en Bretagne.
Roscoff. Bien, Françoise, tu attendais ma question, je vois ça. Donc, Roscoff, c'est des gens qui sont arrivés, des réfugiés, quand Calais a été démantelé, qui ont trouvé un accueil dans une espèce de carcasse en béton dans un coin de Roscoff, avec absolument rien. À un moment, quand... Et là, ce sont des des citoyens, des groupes de citoyens qui se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui ont été voir. Et au moment où ils allaient voir ce qui se passait, eh ben, c'était vraiment une carcasse. On peut imaginer, on voit une image, une carcasse en béton.
Crasseux.
Et les gens n'étaient arrivés à n'avoir aucun matelas, rien du tout, et à n'avoir rien à manger parce que rien n'était organisé. Et ce collectif de soutien, lui, il a choisi la discrétion. Ils ont réussi à aménager un peu les chambres, à soutenir les gens, à amener de la nourriture. La municipalité de Roscoff n'a pas été opposée, n'a pas forcément aidé à donner des jetons de douche. C'est-à-dire que tout le monde a fait ça discrètement, mais c'est surtout les citoyens qui ont pu aider, parler avec ces réfugiés. Et certains ont pu passer en Angleterre et ils continuent à avoir des liens avec. Donc ce squat, il a été démoli maintenant. Il restait encore des réfugiés à Roscoff. Et là, les groupements de citoyens qui aidaient les réfugiés se sont retournés vers les frères, donc les religieux de Roscoff, qui ont mis à la disposition 4 chambres. Et qui maintenant accueille aussi ces réfugiés. Donc c'est vraiment ce que chacun peut faire.
Il ne faut pas envoyer les mineurs isolés.
Et ça continue. Et donc, Sabine, elle me dit
ma
des boutade. Bêtises.
Ah ben, pas toujours.
Mais ça fait du bien de rire un peu.
Voilà.
Mais là, en l'occurrence, les frères ont fait quand même du bon boulot.
Françoise, elle n'a pas entendu ce que j'ai dit.
Non, faut pas. Moi, donc voilà les trois cas dont voulais vous parler, parce que ben, des fois, on dit, Claire-Lise, c'est compliqué à Évreux, c'est compliqué dans plein de villes, qu'on ne voit pas beaucoup de mouvements spontanés, mais il y a de la bonne volonté.
Ouais, ça fait du bien un côté positif.
Ben, c'est l'humain qui reprend le dessus, ça fait du bien quand ça arrive.
Moi, je voulais vous parler d'une action urgente au Vietnam. Est-ce que j'ai le temps ou pas ?
Ben oui, bien sûr.
Alors, près de 700 hommes, femmes et enfants attaqués par la police alors qu'ils allaient porter plainte contre Formosa Plastic et réclamer 20 millions de dollars d'indemnisation. L'entreprise taïwanaise a admis sa responsabilité pour la catastrophe écologique du 1er avril 2016. Catastrophe écologique qui avait entraîné la noyade des poissons, si vous voulez, et détruit le travail des pêcheurs. Le 14 février 2017, 700 personnes, des pêcheurs surtout, allaient disposer 619 plaintes individuelles par rapport à ce désastre qui avait été provoqué. À pied, à moto, ils étaient partis pour 170 km. Cette troupe, là, on peut dire, a été stoppée par un barrage routier. Il y avait 2000 hommes en civil qui ont agressé hommes, femmes, enfants en leur donnant des coups de poing, des coups de pied. Après les violences, les manifestants ont prié, se sont assis et ont prié. 15 hommes ont été embarqués par la police. Donc, on demande, suite à tout ça, aux autorités de bien vouloir faire une enquête exhaustive, de mettre fin aux actes de harcèlement et de faciliter le dépôt de plainte. Donc, pour ça, si cette action vous intéresse, mettez votre nom sur amnesty.evreux@gmail.com et votre mail. Et on vous enverra cette action urgente à traiter
vous
avant.
Juste que vous êtes intéressé.
Par principe actif aussi.
À traiter avant le 3 avril. Voilà, merci beaucoup.
Alors, on va aussi vous parler un petit peu de manifestations.
Locales.
Locales ou un petit peu plus éloignées. Alors, la plus rapprochée au niveau du temps, c'est.
C'est
la marche
soir.
Pour la justice et la dignité.
Non, Françoise.
Demain, Françoise.
Ah oui, pardon.
Allez, demain. Qu'est-ce qui se passe demain ?
Demain, à l'Arsenal de Val-de-Reuil, il y a un spectacle de danse.
Beauty Remain for Just a Moment.
Oui, et Amnesty Louvier-Val-de-Reuil.
Nos copains de Louvier.
Aura une table de presse.
Voilà, c'est un spectacle en anglais qui peut être bien de Robin Orlin, une chorégraphe sud-africaine. Avec des superbes danseurs, avec tout un imaginaire, avec beaucoup de surprises, une beauté extraordinaire. Et en même temps, une forte inventivité dans sa mise sans limite, parce qu'elle arrive à combiner l'art décapant et son regard poético-caustique de la réalité sociale. Voilà, sur Johannesburg et sur...
Donc c'est à 20h.
C'est la question que j'avais posée, parce qu'on a dit que c'était demain. Mais
à l'Arsenal. Alors, il faut voir s'il reste des places, j'espère. Donc demain soir,
donc, Val-de-Reuil. Voilà.
Ensuite, le dimanche 19 mars, c'est-à-dire dimanche prochain, à Paris, aura lieu une marche pour la justice et la dignité.
À 14h.
Retrouvons espoir, force et unité pour faire bloc ensemble au nom de la justice et de la dignité. Alors, contre le racisme, les violences policières, l'agora, la chasse aux migrants. Les associations qui appellent à cette marche sont ATTAC, DAL, Ensemble, SNES, UNEF, UDCGT Paris et les communistes unitaires.
Alors, voilà. C'est à 14h de Nation à République et à partir de 18h, il y aura de 18h à minuit, il y aura plein de concerts avec plein d'artistes.
Aussi, on voudrait vous informer d'une conférence qui est proposée par le groupe ATTAC France Vernon et Vexin Normand, le groupe Amnesty International de Vernon et la section de Vernon de la Ligue des droits de l'homme. Le thème, c'est « Légitimité des violences policières, quelles limites ?» Ça sera Aline Delière, membre du secrétariat national de l'ACAT France, qui présentera le rapport qu'elle a fait, l'ordre et la force. Donc ça sera le mardi 28 mars à 20h30 à l'espace Philippe Auguste à Vernon.
Alors là, ce sont des manifestations militantes. Et moi, je vous parle d'une manifestation, comment dirons-nous, nourriture
citoyenne
sur Évreux, le 20 mars 2017, donc ce lundi, de 19 à 22 heures. Ça se passe à la maison de quartier de la Madeleine, place Kennedy. Il y a une conférence pédagogique sur prendre soin de soi, de l'autre et de la terre, avec une participation avec les mouvements partageurs, les mouvements incroyables comestibles, qui sont tout un mouvement de réflexion sur on pourrait cultiver un peu plus, on pourrait partager la nourriture. Voilà.
La nourriture à partager.
Voilà. Et si notre changement de regard conduisait au nouveau monde, donc avec des intervenants, François Roulet et Sabine Becker. À découvrir et à aller voir. Place limitée, il faut se réserver.
Et aussi, on vous rappelle qu'il y aura la foire aux livres du groupe Amnesty Louviers-Val-de-Reuil les 25 et 26 avril, 25 et 26 mars. Pardon,
à Mars, Françoise.
Au lycée Marcel Broglock de Val-de-Reuil. Voilà, et bien je crois qu'on vous a tout dit.
Pas tout, mais un petit peu.
On n'a pas tout dit. Déjà, notre prochaine émission, ça sera le mardi 28 mars.
Ah oui, tu as raison.
Donc on va se dire au revoir.
On vous souhaite une bonne soirée à tous.
Voilà. Bonne semaine, bonne quinzaine.
Et à dans 15 jours.
Au revoir.
Dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.